Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM pour une toute nouvelle émission qui démarre en ce début d'année 2024. Et c'est une nouvelle émission qui nous fait plaisir, ça fait un moment que l'on y pense, qu'il nous manquait un petit quelque chose pour concrétiser ce projet. Et c'est passé d'un petit quelque chose à une grande aide grâce à une personne qui va animer l'émission avec moi, nous apporter ce regard professionnel et humain sur cette émission qui va traiter du handicap et qui s'intitule Hashtag. Cette personne, c'est Anne Clémence, directrice de la communication du Clos du Nid, que vous allez retrouver avec moi tous les premiers lundis du mois à midi et demi, rediffusé le mercredi à 19h. Bonjour Anne.
Bonjour Ludovic.
Alors merci de m'accompagner dans cette émission.
Avec grand plaisir.
Et bonne année pour cette première 2024, en 1er janvier.
Bonne année, une année qui s'annonce pleine de projets, hein, puisque à commencer par cette émission.
Voilà, et pour démarrer, nous allons évoquer le principe de cette émission qui s'intitule Hashtag. Donc Hashtag, un nom d'émission originale, actuelle et plein de sens. Mais pourquoi Hashtag, Anne ?
Alors hashtag, c'est toute une histoire. Alors déjà, merci de nous avoir permis de monter ce projet. C'est vrai que, comme tu le disais au départ, ça fait un petit moment qu'on en parle. Et ça y est, ça aboutit. Hashtag, alors le hashtag, c'est H d'abord, pour commencer, le H de handicap. Mais c'est juste le H, on ne va pas dire handicap. Juste la lettre H pour signifier quand même que ce sont des personnes qui sont en situation de handicap. Mais le H, juste le H, parce que le handicap, il se voit pas toujours. Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus de handicap invisible, mais bon, certains sont visibles, mais parfois ils s'effacent de plus en plus. Bah, ils s'effacent pourquoi ? Parce que on a des accompagnements au sein de nos structures qui sont de plus en plus individualisés et qui permettent à ces personnes de vivre dans le monde ordinaire de façon de plus en plus normale, même si le mot n'est pas très joli, parce que la société, même s'il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'on fait cette émission, la société se veut quand même de plus en plus inclusive, hein. On le voit sur Marvejol où les personnes qu'on accueille au sein du Clos du Nid résident dans des appartements en ville, vont faire leurs courses comme tout le monde, ont le permis, dans une société ordinaire, je dirais, dans laquelle ils se mêlent, et parce que voilà, on est plein d'optimisme et que le handicap se comprend de mieux en mieux, on en parle de plus en plus et il y a de plus en plus d'échanges à ce sujet. Alors ça c'était pour le H, alors je suis un petit peu longue dans mon intro.
Mais on a le temps, on va prendre notre temps.
Voilà, donc ça c'était pour le H, après il y a le tag. Alors le tag, j'ai trouvé ça sympa parce qu'un tag c'est quoi ? Un tag c'est une identité, c'est une marque, c'est une signature, c'est un élément de reconnaissance et c'est tout ça aussi le handicap. Et puis il y avait un côté assez sympa aussi de penser que les tags sont nés dans un mouvement un peu rebelle, hein. Aux États-Unis des années fin des années 70, années 80, c'était un mouvement qui voulait exprimer des idées nouvelles, faire entrer le monde dans une société nouvelle, et nous c'est un petit peu ce qu'on veut avec cette émission, c'est-à-dire que on l'a dit tout à l'heure, la société se veut de plus en plus inclusive, mais il y a encore quand même une marche, il y a encore un gap par-ci par-là à franchir, et j'espère que cette émission va pouvoir le permettre en donnant la parole à des personnes en situation de handicap, à leurs aidants, à leurs accompagnants, à des professionnels, des structures médico-sociales ou pas, comme ça va être le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ça le but de l'émission.
Voilà, et on va essayer d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations, leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent, car c'est à eux de parler. On a l'habitude de parler des gens sans connaître spécialement tous les tenants, les aboutissants. Donc nous, on veut donner la parole à toutes ces personnes-là, et on va le faire durant toute l'année, tous les mois. On se accordera une petite pause pendant l'été pour aller sur les beaux festivals lausériens, dont à Marvejol avec le Marvelous Pop. Et sinon, ce sera tous les premiers lundis du mois. C'est parti pour une première émission d'une longue série.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.
Et pour ce premier hashtag, nous recevons dans cette première partie Jérôme, Franck et Aurélien. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Tu es lausérien, tu es actuellement travailleur des AT à la Collagne, au Pôle Bois, depuis 2021, c'est ça ?
Oui, c'est ça, février 2021, en effet.
Alors là, tu es avec un ancien collègue de travail, Franck, qui est passé par l'ESAT à la Cologne, au Pôle Bois également. Bonjour Franck.
Oui, et je suis toujours à l'ESAT, Pôle Bois.
Et tu es toujours à l'ESAT.
Ouais.
D'accord. Nous avons aussi Aurélien, éducateur spécialisé, qui travaille au dispositif d'accompagnement extérieur, entre autres. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Car Franck et Jérôme, vous êtes accompagnés sur ce dispositif DAE, donc on reviendra dessus dans cette émission tout à l'heure. Jérôme, on démarre avec toi, si tu veux bien. Déjà, on va commencer par ta scolarité. On revient il y a longtemps pour parler un peu de toi, de ta scolarité. Savoir, est-ce que tu pourrais nous la présenter ? Comment elle s'est passée ?
Eh bien, moi, ma scolarité, je veux dire, j'ai poursuivi une scolarité, je vais essayer de dire classique, parce que même si j'ai un handicap depuis ma naissance, mes parents ont toujours voulu que j'aille à l'école avec tout le monde, dans ce qu'on a parlé des valides. Donc, disons que j'ai réussi donc le matériel, le cursus matériel, le cours alimentaire, le collège, d'une manière tout à fait normale. Et puis j'ai obtenu le brevet des collèges. Et puis à un moment, par contre, vu que quand même j'avais beaucoup de difficultés à suivre, tout ça, mon père m'a inscrit dans un établissement spécialisé où je me suis retrouvé. À Ramonville-Saint-Agne, c'est-à-dire c'est à côté de la banlieue toulousaine, dans un lycée avec des personnes en situation de handicap. Et j'avais, à cet endroit-là, j'avais un suivi quasi individuel, puisque je peux dire que quand j'étais en première, la première littéraire et la terminale, nous étions dans une classe où nous étions cinq. Nous étions cinq par classe, c'était les professeurs qui... à part de rares exceptions qui venaient dans la classe qu'on avait. Donc on ne bougeait pas, c'est eux qui se déplaçaient. Et donc voilà, j'ai réussi à obtenir le bac littéraire. Le parc Saint-Anne, ça s'appelait Ramonville-Saint-Anne, à côté de Toulouse.
T'as eu ton bac littéraire, un bac littéraire comme normal.
Oui, tout à fait.
Par contre, pour le passé, t'as eu un accompagnement particulier ?
Ah,
t'as
oui,
eu des aménagements ?
Oui, j'ai eu de mes aménagements, même au niveau du brevet des collèges. J'avais un tiers-temps, donc c'est-à-dire j'ai eu plus de temps que les autres, que la plupart, pour pouvoir effectuer mes examens.
Ah ouais, voilà. Et donc du coup, t'as ton bac en poche.
Oui. ça remonte bien, parce que là, cette année, ça fera 20 ans.
Bon, ça y est, on connaît ton âge, ça y est.
Non, ouais. Pas tout à fait.
On n'osait pas te le demander.
Il suffit de calculer, on ne sait pas.
Pas tout à fait, parce que je n'ai pas eu... Enfin, j'ai eu un peu de... Enfin, redoublé de classe, donc plus ou moins, on peut l'avoir.
Bon, allez, t'as une coquetterie, tu ne veux pas le dire, mais à peu près, quoi.
Oh, si, si. Je vais avoir 40 ans à la fin de cette année 2024.
Voilà, c'est ce qui me semblait, qu'en 2024, il y avait quelque chose à fêter, hein. C'est ce qui me semblait. Bon, super.
Oui. Voilà. Mais tu as eu un cursus, finalement, je pourrais dire traditionnel, bac littéraire, bac général.
Oui, je l'ai eu. Après, pour la suite, ça a été plus compliqué, mais au moins j'ai ce bagage-là, comme on dirait.
Ouais. Qu'est-ce qui était compliqué après ?
Eh bien, j'ai voulu tenter l'université à Toulouse, et je suis passé d'un extrême à l'autre au niveau, parce que, comme j'ai dit, j'étais dans un lycée où on avait un enseignement presque individualisé à l'université.
Oui, déjà que c'est compliqué. Moi, je n'ai pas réussi à l'université à cause de ça. On est perdu dans cette masse, dans ces amphithéâtres énormes.
Oui, tout à fait, c'était ça. C'était... Et puis, j'avais la vie étudiante. J'étais étudiant, donc j'étais loin de la famille, et donc j'en ai profité pour faire des choses autres que travailler.
Mmh. Je ne m'en cachais pas. Dans la deuxième partie, on va parler d'inclusion. Mais là, tu étais complètement dans l'inclusion. C'est-à-dire que comme tous les jeunes, à un moment donné, bosser et faire la fête...
C'est ça. On connaît les endroits pour faire la fête.
Voilà.
C'est
ça. Donc la place Saint-Pierre à Toulouse, tu as connu la place Saint-Pierre
c'est
à Toulouse.
C'est ça. Mais pas que.
Pas que. Place du Capitole aussi.
Tout à
fait. On vous donnera quelques adresses peut-être en fin d'émission. D'ici ça a peut-être changé hein, depuis, mais...
C'est ça, ça ne rajeunit pas.
On ne sait pas. Et du coup, tu t'es pas posé la question de repartir vers d'autres études, BTS, des études plus courtes, plus resserrées, avec moins d'élèves
Non, c'est vrai que j'ai cette période-là a été assez compliquée où non, je n'étais pas dans un esprit d'essayer autre chose.
Et t'as fait quoi alors? Du coup, tu rates ton année de fac?
Oui. Puis, on va dire, j'ai eu quelques années après où j'étais inactif. Rapatriement en Lozère, je fais le Greta, les formations Greta, ici au lycée Bétavin, au TEC à Mende. Après, par le bouche à oreille, j'arrive à décrocher un CDD dans ce qui était les laboratoires d'analyse médicale à Mende. Et puis après, on arrive au déménagement pour Marvejols pour aller travailler en ESAT.
Ouais, donc la transition, quand même, avec le monde professionnel, tu as eu quelques années qui étaient compliquées, mais ça s'est finalement fait, je ne vais pas dire assez facilement, mais tu as réussi cette transition de manière presque normale entre les études et le monde professionnel. Il y a toujours un laps de temps pour qui que ce soit. Hein, qu'on finisse ses études avant de passer dans le monde professionnel, ça reste toujours compliqué pour tout le monde.
Hein. Bah après, c'est vrai que, je ne m'en cache pas, c'est vrai que je connaissais, même si c'était de loin, le monde du handicap avec les ESAT, les CAT. J'avais du mal à m'y voir dedans, pour être honnête.
Tu avais des a priori au départ?
Oui, j'avais des a priori au départ. Donc. Et puis, bon, en malant, j'y suis arrivé en ayant de l'aide, de personnes qui m'ont montré que c'était différent. Que c'était, enfin, voilà, on a tous. Les a priori sont tombés, et puis j'y suis. C'est sûr que je ne me cache pas que j'ai envie de me dire que c'est une
transition.
J'ai envie que ça soit une transition et que je puisse. Avoir et cherche à avoir les armes pour les outils pour pouvoir retourner dans le milieu ordinaire et y travailler d'une façon pérenne. Mais voilà, je sens que j'en avais besoin clairement, et donc ça se fait pour l'instant, et puis on verra le temps que ça prendra, mais voilà.
Oui, mais c'est bien, t'as un objectif de toute façon, pour qui que ce soit, on évolue, hein, tout le monde, on change de métier, on change de filière, on change de... On évolue. Anne, pour expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce qu'est un ESAT.
Alors, un ESAT, c'est une structure qui permet à des personnes qui sont en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un accompagnement, en fait, d'un accompagnement médico-social, éducatif. Et pour les ESAT, on parle de travail en milieu protégé par opposition au travail en milieu ordinaire. Voilà. Donc souvent, alors effectivement, les ESAT, ce sont des structures qui permettent à des gens d'avoir une activité professionnelle. Comme le dit Jérôme, c'est parfois une transition, parce que ben, on va en parler un petit peu plus tard avec le parcours de Jérôme, mais il existe aujourd'hui, notamment au sein du CLONUDI, un dispositif qui s'appelle le dispositif d'inclusion professionnelle, qui est un dispositif qui permet à des personnes en situation de handicap qui en ont l'envie, la capacité, la possibilité de pouvoir effectivement exercer dans le milieu ordinaire. Alors soit d'y retourner de façon définitive, soit de pouvoir y retourner de façon alternée en gardant un pied dans le milieu protégé et tout en gardant une activité dans le milieu ordinaire. Et Jérôme, alors je vais pas spoiler, mais Jérôme est bien parti quand même pour retourner effectivement vers le milieu ordinaire, parce qu'il a aujourd'hui il a quand même un poste spécifique.
Oui, quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé donc, au Pôle Bois, je vais travailler comme agent d'accueil pendant une année. Si on peut reprendre le fil, au moment où j'ai l'accord MDPH pour entrer en ESAT, j'ai d'abord effectué un stage de 3 semaines. Bon, en fait 2, parce que le premier a été coupé à cause de la pandémie de Covid, qui a débouché sur une admission qui au mois de février 2021.
Tu as commencé agent d'accueil,
oui,
et là,
j'ai commencé agent d'accueil. Et actuellement, je suis au niveau du dispositif d'inclusion professionnelle et aussi sur notre dispositif annexe, sur le travail de bureautique, c'est-à-dire je travaille à faire des tableaux. Et donc, je ne sais pas si Anne ou on reparlera de ce dispositif. Mais en tout cas, j'ai changé d'activité et donc je suis sur ce...
Il y a eu une évolution.
Il y a eu une évolution là-dessus.
Oui.
Il y a eu une belle progression.
Une évolution.
C'est sur le travail du bois, c'est ça, Anne?
Alors, c'est ça. Alors, au Clos d'Uny, on a plusieurs activités au niveau des ESAT, dont une activité bois. Donc, on l'appelle communément, cet ESAT-là, on l'appelle communément le pôle bois, où il y a essentiellement des activités liées au bois, avec la fabrication de bois de chauffage, de palettes, de têtes de cagettes, de la menuiserie avec des caisses, les calumets qui sont des allume-feu. Bon, voilà, toute une activité. Et c'est vrai que Jérôme a la particularité d'être à l'ESAT au pôle bois, mais pas de travailler l'activité du bois, contrairement à Franck. Voilà, c'est ça. Donc, il a été vraiment sur la partie accueil, agent d'accueil, pour assurer l'accueil téléphonique, l'accueil physique, une partie du secrétariat.
Pardon, excusez-moi. Oui, parce que pour moi, physiquement, c'est pas possible que je travaille. La station debout est compliquée pour moi. Donc, dans des bureaux, certaines visibilités du handicap, j'ai l'habitude de dire que devant un bureau, devant un ordinateur, j'ai pas de handicap.
Voilà, c'est ça.
Ça se voit pas.
Voilà. Donc, ce premier poste d'agent d'accueil au pôle bois, même si ça, son activité est particulière. Et après, maintenant, un poste de secrétariat au sein d'un des dispositifs, et notamment donc, le dispositif d'inclusion professionnelle dont on vient de parler. Donc, voilà.
Oui. Vous croisiez avec Franck tous les deux? Il travaillait bien, Franck, ou pas? Allez, tu peux le dire. Après, je demanderai à Franck si tu travailles.
Il ne peut pas me voir, en fait.
Non,
parce que lui, il est dans les bureaux. Moi, je suis
il se planque au chaud.
Je suis dans les ateliers.
Je suis un planqué.
C'est un col blanc.
Voilà. Moi, je suis au contact du bois. Moi.
Non, moi, je touche pas.
T'es un travailleur, toi.
Je suis pas au contact du papier, moi.
Non. Par contre, on se voit tous les matins, puisqu'on prend la navette pour aller au boulot. Ensemble. Au même endroit.
Ensemble. Franck, tu peux nous parler, toi, de ton parcours jusqu'à ce moment où tu es arrivé dans cette ESAT?
Alors, mon parcours dès le début, au point de vue de ma scolarité déjà.
Si tu veux, oui.
Bah, j'ai eu un parcours scolaire assez difficile. Donc, j'ai fini ma carrière, en cinquième. Et en cinquième, comme j'avais déjà redoublé quatre fois, j'étais nul, j'aimais pas l'école, donc mon père m'a dit: tu veux pas rien faire à l'école, c'est pas grave, mais tu vas travailler, parce que moi je garde pas les feignants. Donc j'ai été en apprentissage de couvreur zingueur,
D'accord.
Et après j'ai dû bosser en tout dans ma vie une dizaine d'années en gros comme couvreur, puis après il m'est arrivé l'accident, tout ça, et puis voilà. Donc maintenant c'est un autre parcours. Mais j'ai attendu quand même 6 ans avant de trouver un ESAT qui veulent bien m'embaucher. C'est-à-dire que pendant 6 ans, je faisais tous les ans des stages, à droite, à gauche, en attendant de trouver une place, jusqu'à que ça paye. Et 10 ans de foyer avant moi, de femmes, foyer d'accueil médicalisé, pour me rétablir, parce que j'étais en fauteuil roulant. Et voilà, quoi. Donc j'ai travaillé, j'ai pas lâché l'affaire, et voilà. Et je vois que le travail paye, mais bon, c'est long.
Foyer d'accueil médicalisé, donc c'est...
À Pierrefort, dans le Cantal.
Dans le Cantal, d'accord. Ouais. Donc ça, on a besoin d'une tierce personne pour les actes essentiels, tout ça, t'aide.
Ah oui.
C'est un dispositif assez lourd.
Ça, le foyer d'accueil médicalisé, en fait, c'est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas exercer d'activité professionnelle et qui ont besoin d'un accompagnement sanitaire au vu de leurs problématiques spécifiques, qui manquent un petit peu d'autonomie. Voilà. Alors, ça peut être passager également, comme ça a été ton cas, Franck.
Accident en 2011 et j'ai fait un an de rééducation, c'est-à-dire 10 mois à Enval, un centre de rééducation près de Clermont-Ferrand. Et j'étais en fauteuil roulant et quand ils m'ont trouvé le foyer d'accueil médicalisé à Pierrefort, je suis arrivé en fauteuil aussi là-bas, roulant. Et c'est là-bas après que j'ai travaillé, j'ai fait du kiné, j'ai vu les ergos, j'ai vu les neuropsychologues, enfin tout le monde, quoi. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, au fil des années, j'ai pu me libérer de tout ça, quoi.
Voilà, contrairement à Jérôme, toi, c'est, voilà, tu n'es pas handicapé, ça t'est tombé sur le coin de la gueule un jour, un accident.
Ben, en fait, c'est que, voilà, bon, ben, je vais le dire, j'ai trop fait la fête. Et dans la rue, je suis tombé sur des mecs et voilà, je me suis fait lyncher, quoi. Tout simplement. Et voilà, donc obligé de refaire sa vie.
On va parler après du court-métrage avec David Garcia, qui est là, un très beau court-métrage qui a été primé, qui a eu plusieurs distinctions, qui raconte un peu toi, ta vie. Ouais. On essaiera on mettra les liens pour aller le voir aussi sur nos sites internet. Comment ça se fait que pendant 6 ans, il n'y a pas de place qui se libère? C'est qu'il n'y avait pas de place? Comment ça se passe, Anne?
C'est que les places sont chères.
Les places sont chères.
Alors, je connais pas le parcours spécifiquement de Franck, mais effectivement, si vous voulez une place dans un ESAT en particulier, dans un endroit en particulier,
pas spécialement un endroit
sur
particulier.
Une activité, voilà, bah après, voilà, tout dépend comme...
Moi, j'avais dit rien de ma tâche, même si c'est dans la France, j'y vais.
Voilà, bah après, voilà, c'est effectivement... tout dépend des places qui se libèrent. Alors, le terme de place n'est pas très joli, mais voilà, c'est comme ça.
Ce qu'on peut retenir, c'est quand même que tu as persévéré pendant toutes ces années à faire des stages en attendant.
J'ai pas lâché l'affaire.
T'as pas lâché,
J'ai vu ça avec mon éducatrice parce qu'au bout d'un moment, je voulais lâcher. J'ai dit non, j'en ai marre. Je fais des stages pour rien et puis ça apportera rien. Donc je crois que je vais prendre... on va faire le sens inverse. Parce que moi, ce que je m'étais mis, c'était appartement, enfin, travail et appartement. Et moi, je voulais faire le contraire. À un moment donné, j'ai dit non, c'est bon. Je crois qu'on va faire on va faire l'appartement et après le travail. Mais non. Mmh. Puis du coup, en fait, j'ai lâché cette idée-là et j'ai bien écouté mon éducatrice du FAM où j'étais, qui m'a dit « Non, n'abandonne pas, t'inquiète pas, ça va payer. »
Ça paye.
Bon, ben, j'ai dit « J'attends. »
Disons qu'il y a, je me permets...
Oui, j'allais te questionner, justement. Du coup, vas-y, Aurélien.
En tant qu'éduc, effectivement, je connais un peu le secteur et c'est difficile d'avoir des ESAT qui combinent aussi un hébergement en ville.
Voilà.
Parce que du coup, Franck a une orientation comme Jérôme, foyer d'hébergement, mais... avec la possibilité de vivre en appartement avec un suivi éducatif, c'est rare, mine de rien, peu de foyers qui le proposent. Et voilà, je pense que le Clos du Nid et le foyer d'hébergement dont dépend Franck et Jérôme permettent aussi cette accessibilité.
D'accord.
Voilà. Ouais. Donc les deux combinés sont compliqués. On peut trouver du boulot en ESAT, mais on peut trouver un appartement en ville, mais sans travail. Voilà, il y a vraiment cette combinaison. Il y a un vrai travail de partenariat entre les deux établissements qui permet ce tremplin.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas de place dans les foyers.
D'accord.
Et justement, ils m'ont dit, voilà, il y a le SAE, c'est un système, appartement, machin. Ah ben, je dis tant mieux. Moi, c'est très bien parce que justement, je ne voulais pas retourner en foyer.
L'éducatrice était là pour soutenir, dire, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Toi, en tant qu'éducateur, c'est aussi ce que tu fais de dire aux gens, lâchez pas.
Complètement. Après, du coup, Jérôme, quand il est arrivé, donc il était déjà embauché à l'ESAT et nous, on a accéléré sa possibilité d'accès en ville, donc un appartement au rez-de-chaussée, au vu du handicap, ce qui est compliqué. C'est une petite ville. Donc voilà, on a accéléré les recherches, on a vraiment, pour pas qu'il lâche, quoi. Et assez rapidement, on a trouvé.
Cinq mois
quand même, voilà.
Bon, ça peut être beaucoup plus long pour trouver un logement.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et tout à l'heure, quand je parlais d'accompagnement très individualisé, là, on est dans un cas vraiment où, quand on préparait l'émission, Franck a eu ces termes que j'ai notés. Il a dit, donc au DAE, donc, qui est le dispositif d'accompagnement externe, on a beaucoup d'acronymes dans le médico-social. C'est assez difficile de faire une phrase sans qu'il y ait un acronyme. Et donc, il a eu cette année, ils m'ont trouvé pile poil l'appartement dont j'avais besoin en moins de 5 mois.
Ouais.
Voilà. Donc,
tout ce que j'avais demandé un rez-de-chaussée, pas trop loin de l'arrêt de car, s'il vous plaît, pour aller au boulot et tout, nickel.
Voilà, donc c'est ça, voilà. Ouais. C'est des accompagnements pile poil. Voilà.
C'est pareil pour moi. Bon, moi, contrairement à Franck, je voulais dans un premier temps. J'ai vécu en foyer d'hébergement, Je l'ai voulu dans un premier temps. Je voulais être pas brûler des étapes dans mon esprit, c'est-à-dire être bien au niveau du travail avant de trouver un appartement. C'est ce qui s'est passé. Je suis resté un peu plus d'un an en foyer d'hébergement. Et puis, pareil, au niveau de l'appartement, Bon, mes critères, moi, c'était donc pareil, du rez-de-chaussée, ou alors à étage, mais avec un ascenseur. Et bon, ben, pareil, donc ils ont trouvé un appartement, d'ailleurs, que j'ai visité que cet appartement-là. Donc,
de suite, ça t'a suffi, coup de cœur.
De suite, ça m'a suffi, ouais, coup de cœur. Et je suis toujours, et là, ça va faire 2 ans que j'y suis. Et,
ok, ouais. Super. On va parler de ce dispositif d'accompagnement extérieur. Tu accompagnes combien de personnes, toi, Aurélien, du coup ?
Alors, sur mon service, 40 personnes.
40 personnes, ouais. D'accord. Voilà.
Après, il y a plusieurs équipes. Il y a 3 équipes. Il y a une équipe qui... Donc, DSP, dispositif de soutien à la parentalité. Donc là, des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap qui sont parents, donc qui les soutiennent dans leur parentalité. Là, il y a 18 personnes, une vingtaine de personnes. Il y a l'équipe 1. Moi, je suis sur l'équipe 2. L'équipe 2, c'est des personnes qui sont plus autonomes, un peu moins de besoins, qui vont peut-être être dans des projets d'externalisation. Je suis un peu... Une étape un peu passerelle pour quitter un peu le service éducatif. Et nous, on va assurer ça, sécuriser ça pour que les personnes soient suffisamment outillées et compensent leurs besoins par elles-mêmes, en fait, travailler ce pouvoir d'agir, hein, comme on dit. Et il y a l'équipe 1 aussi, c'est des personnes qui vivent en ville aussi. Là, il y a une 30aine de personnes. Et c'est aussi, ça permet de rendre accessible la ville, l'envie, le désir, le souhait de vivre en ville pour des personnes aussi qui ont plus de besoins, qui ne se font peut-être pas à manger, qui sont peut-être un peu plus insécurisés. Il y a une équipe de proximité qui est peut-être plus présente, qui vient un peu plus, qui les accompagne dans des actes de la vie quotidienne. Voilà. Et ça permet cette accessibilité à la ville, même pour des personnes qui ont plus de besoins. Voilà. Il y a une vraie pensée d'habitat dans nos foyers, de vraiment proposer un habitat très diversifié selon les besoins, parce que voilà, ne pas hiérarchiser, c'est parce qu'on est en ville que on est un meilleur handicapé, on va dire. Il y avait vraiment cette pensée-là à un moment, de dire voilà, il y a une hiérarchie. Non, si tu as besoin de plus d'accompagnement, de te sentir en sécurité avec d'autres personnes, une équipe éducative à côté, ça n'empêche pas ton inclusion, bien au contraire. C'est pas parce qu'on est en ville qu'on est plus inclus aussi, hein. On peut être dans son appartement et être enfermé chez soi aussi, mais c'est vrai que c'est quand même facilitateur pour faire ses courses, etc.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de l'association et du foyer dans lequel je travaille de proposer un habitat vraiment diversifié qui corresponde au plus près, ouais, aux besoins individuels des personnes.
C'est modulable.
C'est très modulable.
Tout à fait.
Et c'est pas acté, c'est pas gravé dans le marbre. Comme l'a dit Jérôme, il arrive en foyer, il avait besoin de ça au début. Il s'est rendu compte que voilà, ça lui a...
Tiens, je vais dire un truc.
Ouais, vas-y.
Ouais, justement, pendant la période de stage que j'ai fait, voilà, ils ont des appartements stagiaires, mais qui est au premier étage. Et à chaque fois que je voulais faire les courses, à chaque fois, j'étais obligé de les appeler pour qu'ils puissent me monter mes courses, voilà, avec mon sac et tout. Oui, donc oui, ça, c'était... J'en avais marre, donc j'ai dit, moi, s'ils peuvent me trouver un rez-de-chaussée pour éviter d'appeler tout le temps.
L'idée, c'est que nous, en gros, on disparaisse un peu de l'accompagnement.
Ben,
on trouve sur un temps long ou moyen, le fait, jusqu'à quel moment...
Donc maintenant, je les appelle que quand je vais au sport le dimanche.
Et des fois, pour nous inviter à manger aussi, quand même, parce qu'on passe des beaux moments et ça permet de faire un peu le bilan sur la semaine. Et...
C'est vraiment la liberté d'avoir son appartement à soi.
Tout à fait.
C'est essentiel au niveau de l'inclusion, on en parlera après tout à l'heure. C'est vraiment ça.
Ouais.
Ah, mais ils sont planqués aussi, les éducs, alors ils se font inviter à manger, c'est ça ?
Bien sûr.
D'accord.
Ça peut être risqué, des fois, quand on va manger chez Franck.
Après, on va au sport, et après, on fait du jacuzzi.
Dis pas tout.
D'accord, là, je viens d'apprendre. C'est pas mal, ces émissions, finalement.
Regardez le secret, quand même.
T'arrêtes. Du coup, c'est quoi la dérouleuse, alors ?
Moi, en fait, c'est un bio qui arrive, qui va passer dans la dérouleuse, il va se faire écorcer, déjà. Et après, il va se faire couper en lamelles pour après faire des culs de cagette. Et après, tout ça, ça part avec mon tapis au triage. Et là-bas, ils trieront les planches que j'ai déroulées. Et après, ça part à l'agrafage et tout ça, quoi. Et voilà. Moi, je suis le petit maillon de la chaîne. Je suis le début de la chaîne. C'est-à-dire que sans moi, ils ne travaillent pas.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. T'es le petit maillon, mais sans toi, il n'y a pas de suite.
Ouais.
C'est de là que ça te vient, ton côté bricoleur. J'ai vu sur le film, tu as bricolé plein d'ustensiles pour te...
Oui, j'aime bien avoir des idées et réfléchir.
Qui te permettent justement d'être
pour
indépendant.
Pour nettoyer mon rasoir, ouais. Là, pour mes chaussures, j'ai mis des petites boules sur les lacets parce que je ne peux pas faire mes lacets. Il y a plein de trucs comme ça que... Voilà.
Trouver des astuces.
Trouver des astuces pour éviter
pour
de demander.
Pour compenser.
Pas éviter ça. De demander aux gens parce que j'ai horreur de ça. D'appeler comme ça tout le temps. Oui, ça, 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 au bout d'un moment. Ça... Enfin, c'est naturel, c'est chez moi, c'est comme ça. Donc...
Ouais. Bah, c'est l'envie d'être autonome, hein. C'est naturel pour tout le monde.
Tout à fait,
ouais, là, ouais, c'est naturel.
Tout à fait. Mmh.
On en parlera plus en profondeur dans une prochaine émission, Anne, mais tu as participé au duo D. C'est Jérôme, qui a participé au duo D.
Oui.
Juste, on va en dire un mot. Rappelle-nous ce dispositif national, Anne.
Alors, en quelques mots, puisqu'on en parlera, je pense, dans le cadre d'une émission particulière qu'on fera en novembre prochain. Le duo D, c'est une journée nationale où des personnes handicapées effectuent une journée de travail dans une entreprise du monde ordinaire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un milieu protégé, milieu ordinaire, en tandem avec, avec un salarié. Voilà. Donc Jérôme, lui, a effectué effectivement son duo day à la MDPH. Donc la MDPH qui
MDA
maintenant, exactement.
Maison de l'autonomie.
Maison départementale de l'autonomie.
Départementale de l'autonomie, en effet, oui. Ici à Mende. Peut-être ils écouteront, donc je les salue. Donc il y avait Liliane, Elodie et Frédéric. Voilà, ils étaient trois. Et c'était...
Ah, c'était plus qu'un duo, alors.
Oui, oui. Ah, oui, oui. Le duo...
C'était une équipe.
Ouais, c'était...
Ah,
oui,
chouette,
c'était particulièrement le département de la gestion électronique des documents, la GED. Et j'ai fait donc cette journée. Donc, je suis venu à Mende, accompagné par mon collègue, M. Seguin. C'est lui qui m'a amené ici. J'ai passé la journée. Ils m'ont montré ce qu'ils faisaient. Et donc, après, à chaque fois, je refaisais la... La même chose, donc c'était une façon pour moi de découvrir toute autre chose pendant une journée. C'était la première fois que je le faisais, moi, le duo D, donc j'ai demandé, et puis j'ai d'abord regardé ce qui était proposé. J'ai eu cette opportunité-là, et donc une journée... dans une entreprise ordinaire.
Voilà, parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent. Anne, on reviendra dessus pour en parler. C'est...
Et alors, juste pour préciser que le Duo Day, c'est une journée qui est gérée par nos amis de Cap Emploi. Cap Emploi, c'est le pendant de Pôle Emploi pour les personnes éloignées de l'emploi, on va dire, en situation de handicap, de vulnérabilité, en difficulté, éloignées
c'est
de
ça,
l'emploi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et tout ça pour dire que nous allons associer à cette émission hashtag également nos amis de Cap Emploi, de temps en temps, à une émission.
Qui viendront.
Voilà, également.
Dans vos appartements, vous avez assez de place pour faire du théâtre ?
Non.
Non ? Allez, ça tombe bien parce qu'il y a un atelier théâtre, vous pouvez en faire sur place. On va faire une pause musicale et on va parler théâtre avec David Garcia qui va nous rejoindre. Qui c'est qui propose ? Jérôme, allez, pour le changement de plateau, on va faire une pause musicale, on te laisse choisir la chanson. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute ?
Eh bien, j'avais proposé Johnny Hallyday, allumer le feu.
Allez, on va allumer le feu.
Guitare et le bruit. étincelle, et d'amour d'amour, et pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux.
Allez, de retour dans Hashtag après ce morceau de Johnny Hallyday. On revient dans cette deuxième et dernière partie d'émission, toujours avec Jérôme et Franck et Aurélien. Également toujours. David Garcia de la Compagnie du Lézard qui nous rejoint. Salut David.
Bonjour à tous et bonne année.
Et merci, bonne année bien sûr à tout le monde. Tu t'occupes toi de l'atelier théâtre, David, ça fait combien de temps?
Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a attaqué en 2018 ou en 2019 avec un groupe d'une dizaine de résidents du foyer de la Collagne. Et donc on travaillait 2 heures par semaine. Je m'adresse à Jérôme parce que Jérôme fait partie de l'atelier théâtre.
C'est 2 heures, oui.
Deux heures par semaine, toutes les semaines. Voilà.
Ouais.
Et après, l'idée, c'est donc on travaille sur une thématique qui a été décidée en partie avec l'atelier et également la direction du Clos du Nid. Une thématique qui est pertinente par rapport à la situation du handicap dans la société actuelle. Donc, par exemple, il y a quelques années, on a travaillé sur la parentalité qui a été abordée par Aurélien. Et cette année, l'année qui vient de s'écouler, on a travaillé sur l'inclusion et l'empowerment. Voilà.
L'empowerment.
Et l'idée, c'est donc qu'on travaille avec les résidents, on les encadre également avec des comédiens professionnels. On fait tout un travail aussi vidéo pour croiser les regards avec d'autres personnes qui vont témoigner sur cette thématique. Ça peut être des médecins, des psychologues, des éducateurs, d'autres résidents, etc. Et on associe cette vidéo au spectacle pour vraiment mélanger la réflexion, que ce soit plus qu'un spectacle, que ce soit aussi un outil de réflexion sur cette thématique. Et puis également, à travers de cette matière vidéo, on va dégager un format 6 minutes qu'on va présenter au festival Regard Croisé à Saint-Malo. Donc cette année, c'était l'inclus quoi. Ouais.
Et là, petit clin d'œil à Alexandre Vieux, hein, de la Fabrique à Images, hein, qui assure, exactement, comme on disait tout à l'heure, écoutes, voilà, qui assure toute la partie Images.
Tout à fait, avec Alexandre. Donc, on travaille ensemble sur la réalisation des interviews, le montage, etc. etc. Voilà.
Quand tu as proposé au départ en 2017-2018, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter?
Je suis un peu. Moi, j'aime bien les défis, et c'est vrai que Monsieur Lauré, donc le directeur de la Collagne, a le grand talent de me mettre des fois face à des défis à relever. Et j'aime bien. Et je suis un peu comme un élève qui tire un sujet au bac. Voilà. Et parce que moi, je ne suis pas du tout du milieu du handicap. Voilà. Par contre, j'ai du temps à un moment donné pour aller faire mon propre avis, avoir mon propre regard, aller discuter avec des éducateurs, avec des personnes référentes et m'enrichir de tout ça. Voilà. Et c'est vrai que j'ai dû avoir une drôle de tête l'année dernière quand j'ai tiré inclusion et empowerment, parce que l'empowerment, c'était un mot,
je ne savais même pas ce que c'est.
Donc l'empowerment, c'est la capacité d'agir. Alors il y a une très belle... il y a un très beau interview, colloque de André Comte-Sponville, qui est un philosophe, qui parle justement de l'empowerment et de l'handicap. Et j'en avais déjà parlé, parce que quand on dit empowerment, c'est la capacité d'agir, oui, très bien.
Alors c'est redonner aux personnes le pouvoir d'agir.
C'est ça, redonner le... voilà. Et après, c'est vrai que Monsieur Boulanger, donc, qui est...
Le professeur Boulanger, médecin, psychiatre, référent technique, en fait, sur l'ensemble de l'association.
Voilà, et qui m'a bien expliqué, enfin, j'ai compris, en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais Anne, tu vas me dire. Mais c'est vrai que c'est important, parce que ça veut dire aussi que la personne en situation de handicap prend aussi, de par sa capacité à agir et ça, ça, le fait de le développer, ça part dans le process d'inclusion. Parce que l'inclusion, ça va de la société, ça part de la société, il faut une société inclusive, et ça part aussi de, on va dire, de l'énergie du résident. Sa volonté d'aller prendre un appartement en ville, sa volonté de travailler dans le milieu ordinaire, etc., etc. Donc, développer la capacité d'agir du résident, partir de ses envies, de ses choix. Après, c'est tout le travail des éducateurs d'évaluer si ce choix est bon pour lui, pertinent. Ou c'est pas peut-être trop de risques, etc., cohérent, parce qu'il faut faire gaffe à la prise de danger, et pour qu'il puisse, qu'à un moment donné, le système, à travers les éducateurs, puisse faire en sorte que le résident puisse vivre la vie qu'il a envie de vivre. Voilà.
Oui, ouais, vas-y,
disons que l'éducateur, je parle de ce que je connais, a pu dans son histoire, et voilà, il y a un peu un changement de paradigme et d'approche là-dessus, c'est-à-dire que souvent on pensait à la place d'eux, l'accompagnement faisait à la place, on était un peu les experts, on va dire ceux qui savent mieux, et là on commence à dire non, le vrai expert c'est la personne en fait elle-même, hein, qui connaît mieux son handicap, qui connaît ses capacités. Et nous, bah, c'est un peu ce travail-là de se déconstruire, bon, même si c'était le cas hein, déjà, hein, les éducateurs ont cette formation, mais vraiment mettre l'accent sur amener les personnes à travailler leur pouvoir d'agir, effectivement, leur redonner du pouvoir, qu'elles reprennent ce pouvoir-là dans leur vie, dans leurs choix. Et Franck l'illustrait très, très bien tout à l'heure, hein, par exemple, de lui-même, là, sans même qu'un éducateur vienne lui dire, oui, peut-être me construire quelque chose pour que je puisse. Ça peut être des trucs très pragmatiques, très pratiques. Hein. Laver mon rasoir, parce que j'arrive à utiliser qu'une seule main, construis quelque chose et ça me permet de le faire par moi-même.
C'est ce que j'allais te dire, la barrière est fine, finalement, entre l'exclusion et l'inclusion. Quelqu'un comme Franck qui a son travail, qui a son appartement, mm-hmm. Il se situe où ? Il est déjà inclus, finalement, non ?
Après, ce serait des questions de sociologie, mais effectivement, si on travaille l'inclusion, ça vient. Le pendant, c'est qu'on est exclu. C'est si on doit s'inclure, c'est potentiellement symboliquement, on l'est exclu, effectivement, comme l'a dit aussi David. C'est un double mouvement. Je pense que la société se doit d'être plus inclusive en mettant en place une accessibilité, encore une fois, très pragmatique, des rampes, des trottoirs accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi pour des personnes malvoyantes, malentendantes, des signaux visuels, etc.
D'ailleurs, finalement, c'est la société qui les exclut en ne faisant pas ce qu'elle doit faire.
Complètement, oui, effectivement. Et nous, en bout de chaîne, l'État finance des associations pour venir un peu compenser ce qu'elle ne fait pas, effectivement.
On parle de chaîne, la première personne ne fait pas son travail, Franck, ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu fais ton travail, ça permet aux autres de travailler, mais tu voulais dire, Jérôme ?
Non, mais c'est vrai que je peux rebondir là-dessus, parce que comme je redisais, je me souviens très bien au moment où j'ai été à Toulouse, plus de 20 ans. On parlait de l'accessibilité, ce que je vois maintenant en Lozère. Je suis un peu désolé, parce que je suis lozérien de naissance, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de retard ici. Toutes ces accessibilités, comme par exemple les bâtiments publics qui devraient être
énormes. Qui sont une obligation depuis des années et qui ne sont toujours pas.
Ce qui ne sont toujours pas le cas.
Je te coupe, Jean, tu te rappelles le film qu'on a vu au festival sur la mairie de Longchamp ?
Oui, voilà. Il y a Longchamp, Morbihan.
Bretagne,
Bretagne. Mmh. Une ville 100% accessible, 100% inclusible. Voilà. Mais en tout cas, juste pour en dire que à l'époque où j'étais à Toulouse, dans mon lycée, il y avait tout type de handicap, dont le handicap visuel. Et les passages piétons, à Toulouse même, quand donc il y a le petit bonhomme qui passe au vert, il y a un avertisseur sonore qui
indique qu'on peut passer.
Qui indique que pour les personnes malvoyantes ou aveugles carrément, qu'ils pouvaient passer. Et ça, moi qui venais de Malvoisère,
disons que c'est des vraies volontés politiques, là c'est financier, il faut de l'argent pour faire ces travaux, etc. Mais là on parle d'handicap physique, mais il y a aussi l'handicap cognitif, l'handicap psychique, et là c'est un peu plus délicat, plus subtil effectivement de travailler auprès. Nous c'est un peu le travail qu'on fait, on le fait un peu de manière très artisanale, travailler avec les commerçants, encore on a la chance d'être dans une petite ville, donc Marvejol qui est quand même un peu le berceau, il y a beaucoup d'institutions, donc quand même, c'est un peu l'habitude, mais quand on se retrouve face à une personne, à la caisse, qui n'a peut-être pas suffisamment d'argent ou qui commence à paniquer.
Ou qui n'a pas les codes sociaux.
Les caissières ont peut-être l'habitude. Donc nous, on peut travailler, repasser derrière un commerçant. Quand quelqu'un a été mal reçu dans tel endroit, nous, on peut de temps en temps faire un peu ce médiateur social avec les personnes. Et ça fonctionne vraiment. Il y a encore du boulot. Là, on n'est pas sur. sur un financement de l'État en disant, bon, on va mettre 300 000 euros pour faire les trottoirs dans l'hypercentre. Enfin voilà, on est sur quelque chose de plus subtil, plus humain et qui peut se faire à l'échelle d'une petite ville, peut-être d'une grande ville aussi. Il ne faut pas se limiter, mais voilà. En tout cas, c'est en travail, en tout cas, dans le bassin de Marvejo.
Pour revenir sur le théâtre, comment on écrit au théâtre pour parler d'handicap ? Est-ce que c'est une écriture particulière ou pas, David ?
Oh oui, c'est... Il y a des thèmes qui sont assez sensibles. Hein. Je sais que, bon, il y a deux ans, le thème de la parentalité, pour moi, était un thème très sensible. J'ai l'impression que chaque mot qui était écrit, je le mettais sur une balance, je le pesais. Sur l'inclusion et l'empowerment aussi. C'est complexe. Ça s'écrit... c'est vrai que moi, je suis un réceptacle, mais après, ça s'écrit avec les autres. Ça s'écrit de par la parole des personnes qui sont à l'atelier théâtre, parce qu'ils parlent de leur propre inclusion, exclusion. Ça part aussi de la parole des éducateurs, ça parle aussi de la parole du professeur Boulanger. Ça parle. Savoir que sur le projet Inclusion et Empowerment, dans la vidéo, je crois qu'il y a 13 ou 14 intervenants pour parler de l'inclusion. C'est quelque chose qui est assez complexe. C'est pas quelque chose qu'on tamponne. L'inclusion, il faut, c'est bien fait. C'est même quand on en parle autour de la table, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et même on a fait des débats avec des éducateurs. Riche. Hein. Il y avait des avis pour, contre, etc. Et à la fois, c'est moi ce qui me plaît dans ce milieu, c'est que c'est un milieu qui se met énormément en question et qui avance, qui progresse. Parce que des fois, il y a des milieux qui sont hyper fermés, hermétiques, et qui, voilà, il y a 15 ans, ils n'ont pas changé. Mais depuis les années 2000, le regard sur la personne en situation de handicap, comme tu disais, l'institution, le regard sur l'institution, etc., c'est un milieu qui se remet beaucoup en question. Je crois que c'est ça qui me plaît aussi, c'est que ça avance. Hein. Ouais. Ouais. Et l'inclusion, oui, ça n'a rien à voir avec il y a quelques années, quoi.
Et alors moi je, pour se faire aussi l'écho de notre président, du président Jacques Blanc, donc il y a l'inclusion, il ne faut pas oublier aussi que s'il y a des établissements tels que les ESAT, les foyers d'accueil, c'est parce qu'aussi il y a des personnes qui, de fait, ne pourront pas vivre en société comme tout un chacun. Et aujourd'hui, il y a aussi ces établissements pour pouvoir les accueillir et leur permettre de vivre, quoi qu'il en soit, dans une certaine normalité, même si on ne parle pas d'inclusion au sens inclusion dans la société, aller faire ses courses. Mais il y a ces établissements qui sont là pour des personnes qui ne pourront pas.
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le choix.
Il y a le choix.
Voilà. C'est-à-dire que la personne a le choix. On peut tout à fait entendre qu'une personne veuille vivre en milieu protégé parce que ça la rassure. Et puis, il ne faut pas dire non, tu vas aller vivre au milieu ordinaire parce qu'il faut faire de l'inclusion. Ça va la mettre en danger. Voilà. Et il y a le choix. Et cette capacité d'avoir de choix et d'avoir des systèmes hyper souples, vachement de l'adaptabilité. des fois, on met des compléments, on fait des étayages, des choses comme ça. C'est là où c'est fin, où c'est complexe.
Il y a le choix, donc effectivement, pour ceux qui auraient la possibilité de faire autre chose. Et puis, il y a cette possibilité que d'avoir ce monde protégé pour les personnes qui n'ont pas le choix et qui ne pourront jamais aller à l'extérieur. Et ces établissements qui, aujourd'hui, par cet accompagnement qui évolue, même sur des publics avec un handicap relativement lourd, hein, aujourd'hui, dans les masses, on parle aussi d'empowerment. Parce que, on utilise aujourd'hui la méthode Montessori pour essayer de favoriser l'expression d'un choix et que ces personnes puissent s'épanouir autant que possible aussi dans leur handicap et grâce à ces structures et ces accompagnements qu'on peut leur proposer.
L'empowerment, pour moi aussi, c'est de quelle manière on regarde son handicap. Voilà. Moi, il y a une phrase que je trouve absolument fantastique de Franck dans le doc, c'est que il a son accident, il est sur fauteuil roulant, et là il dit j'avais de la chance, je n'étais que hémiplégique. Alors il aurait pu dire nom de Dieu, bordel, ma vie elle est foutue, je suis hémiplégique. Donc là on est dans un système fermé. Là il dit non, j'avais de la chance, Il regarde le côté ouvert. Ouais. Et à partir de là, il s'est mis à travailler comme un dingue pour pouvoir... Il s'est pris en main. Il a développé sa propre capacité d'agir. Ouais. Et c'est un regard qu'on pose à un moment donné sur ses propres difficultés. Ouais. Ça, c'est énorme. Je suis sûr que là, autour, là, il nous arrive la même chose. Peut-être qu'on est un sur deux, voire même tous, à baisser les bras. Je n'avais de la chance. Un mental, je n'étais que hémiplégique.
Et puis, il dit aussi la force du mental. Il dit « Je suis rentré en fauteuil. Je savais que j'allais sortir sur mes deux pieds.
Je l'avais dit à tout le monde au foyer quand je suis rentré la première année. J'avais vu mon éducatrice, j'ai dit, moi, de toute façon, je ne resterai pas ici, je ne resterai pas dans ce fauteuil roulant. Et peut-être 5 ans ou 6 ans après, j'étais plus en fauteuil roulant, et voilà, j'avais gagné.
C'est incroyable. Et c'est ça aussi qu'on veut donner dans l'émission, c'est des messages comme ça, des messages positifs, plein de courage, plein d'espoir.
Il faut se dire que quand on veut, on peut. Mais il ne faut, pas lâcher.
Et pourquoi elle inclut quoi? Pourquoi elle inclut quoi? Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai posé la question à Franck...
C'est le nom du court-métrage.
C'est le nom du court-métrage qui s'appelle l'inclut quoi, parce qu'on m'a demandé de travailler sur l'inclusion. Et je suis allé interviewer Franck, on a passé 2 heures dans le bar, on a discuté. Et à un moment donné, je dis, l'inclusion, pour toi, c'est quoi? Et après, c'est repris dans le court-métrage, je dis, je sais pas, l'inclusion, c'est quoi? Je travaille, je sais pas, je suis avec tout le monde, j'en sais rien. Tu sais, toi, tu pourrais pas me dire, toi, j'en sais rien, j'ai réfléchi, j'ai regardé, mais je sais pas. Et je me dis, c'est un gars, il a un handicap, il a compensé par lui-même beaucoup de comportements, le fait de se raser, le fait de peler une patate, ce qu'on disait tout à l'heure. Et même les éducateurs, à un moment donné, ils ont pris la distance parce qu'il est vers l'autonomie, il a une envie d'être autonome. Et à un moment donné, il ne se pose même pas qu'est-ce que c'est l'inclusion, parce que de par son comportement, c'est lui-même qui est revenu. Voilà. L'inclut quoi? Je pense qu'à un moment donné, il ne s'en est pas exclu parce qu'il ne s'est jamais exclu de lui-même, quelque part, il a toujours cru en lui. Et la véritable exclusion, elle est peut-être là.
Il y en a qui ne supportent pas leur handicap. Moi, je l'ai supporté. De toute façon, on ne peut pas faire marche arrière. Donc maintenant, il faut apprendre à vivre avec et tout se concentrer sur sa vie en étant handicapé.
Voilà. Et ce reportage a été primé dans la catégorie Autre Regard, le prix Mention Spéciale, c'est ça?
C'est ça.
Festival Regard Croisé de Saint-Malo?
C'est ça. C'est Regard Croisé, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est le plus gros festival, court-métrage, sur le thème du handicap. Donc la phrase clé, c'est le handicap n'empêche pas le talent.
Le talent, c'est ça. Ouais.
Donc on y était l'année dernière sur un court-métrage sur la parentalité, on avait eu un prix déjà, donc on est revenu cette année avec un court-métrage sur l'inclusion, l'empowerment, avec un portrait de Franck, Et on a été donc primé dans la catégorie Autre Regard. C'est un très très beau festival. Et à la fois, au-delà du cadre qui est juste exceptionnel, on passe la journée à regarder une cinquantaine de films sur handicap avec d'autres portraits de personnes exceptionnelles. Et on sort de là, on a un autre regard sur le handicap, une richesse. C'est juste incroyable. Moi, je vous conseille à tout le monde d'aller là-bas et puis d'assister même en tant que spectateur,
moins une fois.
Et le fait d'avoir un prix en plus, c'est vrai que monter sur scène, etc.
Voilà, c'est ce que j'allais demander. Vous parlez de votre expérience. Alors, vous êtes parti à Saint-Malo. Comment ça se passe, arriver là-bas?
Il fallait s'installer. Donc, on a eu. C'était quoi, un bungalow?
Ouais, on va pas rentrer dans les détails.
Il faut garder le secret.
On s'est installé, on a bien pris nos repères.
Déjà, il y a le Palais du Grand Large.
Le
Palais du Grand Large, c'est le bord de l'océan.
Déjà, c'est au bord de la Manche.
La salle de restauration baie vitrée.
La salle de restauration, dehors, on voit la Manche. On a la mer en face de nous.
Et vous êtes monté sur scène pour récupérer le prix? Comment ça s'est passé?
Oui, on est monté sur scène pour récupérer le prix,
Alors déjà vous êtes sélectionné, si je reviens à la base déjà, vous candidatez, c'est pas le terme, mais vous envoyez le court-métrage.
Voilà, on la voit au mois de septembre, après il y a une pré-sélection.
La pré-sélection.
Sur à peu près une centaine de films, il y en a 48, comme la Lozère, qui sont 48, je me souviens, qui sont sélectionnés.
Voilà, donc là c'est déjà une première victoire, être sélectionné déjà au Festival de Saint-Malo, c'est déjà...
Donc déjà il y a ça, sélection, après il y a un cadre, comme on vient de dire, c'est pas le Grand Large, vu sur l'océan, ensuite il y a un jury prestigieux. C'est-à-dire
on
parmi
aura
les...
une petite anecdote tout à l'heure, hein, ça je ne l'oublie pas.
Donc, parmi les présidents, il y a eu Dominique Farrugia, il y a eu Agnès Jaoui, il y a eu Charles de Turckheim, et cette année c'était Isabelle Nanty, voilà. Et donc voilà, et puis après il y a aussi, ben, c'est comme une cérémonie, on va dire, des Oscars ou des Molières,
ouais,
etc.
Ouais, c'est ça.
Mais après, avec une spécialité donc, sur le handicap, donc à la fin de la journée, une fois que tous les films ont été visionnés, ben, il y a Patrice Drevet, je ne sais pas si vous vous rappelez Patrice Drevet avec La Mèche, etc. Et cette année, il y a aussi Églantine
Émeillé,
qui Émeillé. Est sensible aussi à la question du handicap, parce qu'elle
avait
un enfant autiste, parce qu'il est décédé cette année, je crois. Voilà. Ouais. Donc, qui anime la soirée. Voilà.
Qui a été, ouais,
et après, ça se passe comment? Ben, y a un membre du jury qui vient parler du film qui va être primé, mais sans dire le nom. Alors, l'idée, c'est qu'elle en parle. Il ne faut pas trop qu'elle en dise, mais il faut qu'elle en dise un petit peu.
Oui, voilà.
Et donc,
trop,
nous, on était dans la salle, donc tous, avec, il y avait aussi Madame Escriche. Ouais. Et au fur et à mesure qu'elle en parlait, voilà, c'est un portrait. On se dit, ah, tiens, nous, c'est un portrait. Ouais, ouais. Avec un regard assez fair play. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il dit dans le film, moi, je l'avais bien cherché, mon père m'avait averti, etc.
Ah, oui, oui.
Elle en parle, et puis j'ai Madame Escriche qui disait, mais c'est nous. Ah, moi, je dis, on se calme. Je dis, si, c'est nous, il n'y a que nous. Et après, il y a quelqu'un qui ouvre l'enveloppe, voilà, et puis il dit le nom, alors l'inclut quoi? Et bien là, il y a un moment donné, le cœur qui monte dans les tours, et puis la salle qui applaudit, et puis on monte sur scène, et puis, puis c'est génial, quoi. Voilà,
ouais, c'est
un grand moment, quoi.
C'est quoi qui a fait la différence, vous croyez, dans votre film? C'est quoi? Parce que vous dites, vous êtes 50, alors vous avez déjà été présélectionné, donc ça c'est énorme, mais vous êtes quand même encore 50 en lice, donc c'est quoi qui a fait la différence?
Je pense que c'est peut-être les paroles que j'ai dit.
C'est la personnalité de Franck.
La franchise. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était cash. Hein. J'incite tous les auditeurs là, à aller, aller sur le lien, regarder le petit film, parce que c'est cash, c'est franc.
Ouais,
c'est avec tes tripes. Hein,
Il n'y a pas
de vernis.
Voilà, pour tous ceux qui ont un handicap, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Toujours aller de l'avant.
C'est pas forcément ça. C'est quand on avait discuté avec le réalisateur après la cérémonie là, il a dit j'écris des films, je galère tout le temps pour avoir des personnages, leur donner une densité, une histoire. Mais toi, le personnage il est là. Oui. Il disait il y a un truc moi qui m'a marqué, c'est quand tu parles des gens qui t'ont cassé la gueule quoi, voilà, etc.
C'est ça. Ouais.
Et au moment donné il en parle, il dit moi je leur souhaite toute la misère du monde.
Ah bah oui.
Les gens qui ont fait ça, ils ont rien dans le pantalon, je leur souhaite toute la misère du monde.
C'est ça.
Et quand il commence à parler des gens, tout le monde s'attend à ce qu'ils disent je leur pardonne.
Non,
je leur pardonne, c'est fini, je suis passé au-delà. Mais non, c'est des enfoirés. Il a envie de leur péter la gueule. Il dit ben voilà, ça au moins, c'est sans vernis.
C'est pour ça que je pense que c'est ça peut-être qui a fait la différence. Là, ce côté sans vernis, ce côté cash, ce côté.
Oui, c'est ça, sans vernis.
Ben, ça, des gens comme ça.
Sans vernis. Tu
m'arrêtes pas de vivre.
Donc, du coup, alors après, vous montez sur scène.
Oui.
Allez. Alors, qui c'est qui vous donne le prix? C'est Isabelle Nanty?
Non, c'était qui? Je sais plus.
Je peux pas dire après. Un membre du jury.
C'était le membre du jury, oui.
D'accord.
C'était une femme qui faisait des bandes dessinées, écrivait des livres, une écrivaine, je crois.
Et alors, il faut que vous disiez, elle vous donne la parole pour dire deux, trois mots. Comment ça se passe?
Je lui ai dit, je me dit, ben merci bien pour ce trophée. Et puis voilà.
C'était la première fois. C'était la première fois. Merci.
C'est la première fois. Merci beaucoup pour ce trophée.
Ouais. Après, je me rappelle, tu étais à côté. Passé le micro, tu as fait passer à moi.
J'ai fait passer.
Après, il m'est revenu. J'ai dit, bon, allez.
Et après c'est David. Moi, j'avoue que j'étais tellement surpris. Et puis,
en 2024, ça sera plus simple lors d'aller recevoir le prix. Parce que vous serez habitué. Donc,
C'est pas parce que en fait j'ai spoilé un peu cette année, c'est on fait pas de
et non c'est tout. Pas nous
ah. Ça change. C'est sur le harcèlement cette année.
Pas faire de théâtre, on va faire un court métrage.
C'est un court métrage.
Donc vous passez pas par la phase de théâtre, vous allez directement à la phase film.
Non, on va quand même utiliser l'atelier théâtre comme.
C'est toujours à l'atelier.
Comme les résidents qui s'inscrivent à l'atelier théâtre.
Continuent leur atelier théâtre.
Par contre, on va travailler de manière complètement différente parce qu'on va travailler sur un film. Quand on travaille en théâtre par répétition, on se met face à un public, on imagine qu'il y a un public. Là, c'est pas le cas parce qu'on va tourner des scènes, au foyer de la Cologne, on va peut-être aller au Parc à Loup, peut-être qu'on va aller à Saint-Chély, d'autres lieux, etc. Puis il va falloir travailler en trois dimensions, sans forcément qu'il y ait un fléchage public. Voilà. Donc ça va tout changer dans le travail. dans l'apprentissage. Et c'est assez intéressant. Moi, c'est la première fois que je vais travailler comme ça. Et c'est assez...
Et le thème du harcèlement. Pourquoi le thème du harcèlement ? Donc, vous aurez fait la parentalité, l'inclusion et cette année, le harcèlement. Alors, pourquoi le harcèlement ?
Eh bien, cette année, on avait...
C'est vous qui avez choisi ?
On a choisi, oui. On a choisi. Et puis, c'est vrai que quand ça a été le moment de choisir, c'était malheureusement l'actualité.
Avec le harcèlement scolaire en début d'année ?
Oui, oui, voilà. Et donc, ça...
Ça vous parlait ?
Ça parle quand même, oui.
C'est des choses vécues pour...
Oui.
Après, toi notamment, Jérôme, quand tu as quitté le collège, tu as dit que c'était une période difficile avant d'aller dans ce lycée de Toulouse, là ?
Non, moi je dirais plutôt, moi c'est surtout le regard, les interrogations, et puis l'âge que j'avais aussi quand ça arrivait. Voilà. Maintenant, quand ça arrive, parce que ça arrive toujours, notamment une personne qui est... Ils montrent du doigt des jeunes, des enfants.
Et qui se moquent.
J'en rigole, mais non. Mais il y a eu un moment où j'en rigolais pas.
Bien sûr, oui.
Mais voilà.
Après, d'où le harcèlement donc, à traiter cette année. Donc, du teasing, là. Donc,
tu vas pouvoir aider sur l'écriture. Hein. David, attention, tu reviens qu'un prix, sinon...
Mais n'empêche que c'est une pression, parce que... Autant l'année dernière, on avait pris le prix du jury jeune, là, on a eu le prix du jury normal, donc on est monté, voilà.
Mais c'est quoi, là, après...
Après, c'est Cannes, voilà. Et alors, en parlant de ça, alors là, il y a quand même une anecdote avec Isabelle Nanty.
Allez, alors clôturer cette émission.
Allez, Franck. Allez, pour clôturer l'émission.
Allez, Franck.
Ah oui, que je lui avais demandé si elle avait un rôle dans Les Ch'tis.
Non, Les Tuches.
Les Tuches.
Et voilà, donc maintenant j'attends une réponse.
Allez, écoute,
ça sera. Si vous m'écoutez, j'attends votre réponse.
T'as pas filé son numéro.
Ah bah non, quand même pas.
Parfait, on va clôturer cette première émission à hashtag. Ouais. Merci à vous d'être venu autour de cette table, de ces micros pour parler, c'était très intéressant. Vous voulez dire un dernier mot, vous voulez clôturer l'émission ?
Merci à tous, et puis super émission. Pour l'instant, on n'a pas pu dire encore grand-chose. On va réfléchir.
On te réinvitera.
On va réfléchir à tout ça.
C'était très... De nouveauté en nouveauté. Et donc, c'était très intéressant. Et voilà, bon concept d'émission à écouter.
Allez, merci beaucoup. On notera, vous êtes venu sur la première. On vous réinvitera pour la dernière de l'année.
La dernière de l'année, ça sera pas loin du festival. Là,
ça sera pas loin du festival. Mais voilà, donc, pour le prix,
revenez avec le trophée au milieu de la table.
Rien n'est jamais acquis.
Le contrat d'Isabelle Nanty
pour les Tuches.
Avec l'affiche des Tuches.
Ouais.
Où on verra Franck sur l'affiche.
Oui, j'aimerais bien.
Ouais.
Bon, merci bien.
Très sympa, merci.
Merci Anne.
Avec grand plaisir, et du coup, on se dit au mois prochain, alors au mois de février.
Même heure, même fréquence.
Allez, super.
D'accord, au revoir à tous.
Au revoir à tous, merci.
Au revoir, merci.